Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats et d'opinions. À partir de 13h, comme tous les jours, vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce mercredi 10 août. 6000 hectares détruits en quelques heures à peine, 6000 personnes évacuées. Dès le début de ce journal, nous irons en Gironde. Le feu a repris près de Landiras de façon très virulente. Anthony Kaczmarek, justement, la météo n'aide pas du tout. Toutes les conditions sont réunies. Risque d'incendie maximal.
Oui, c'est la fameuse règle des 3-30, des températures supérieures à 30 degrés, des vents soufflant à plus de 30 km/h et un taux d'humidité dans l'air inférieur à 30%. Des conditions que l'on retrouve sur une très large partie du pays et notamment dans la moitié nord, donc prudence aussi en Bretagne et vers le Maine-et-Loire. Mais pour les Landes et la Gironde, 38 à 39 degrés prévus cet après-midi, un taux d'humidité de 15% seulement. Mais le seul espoir, c'est que le vent devrait un peu faiblir et ne plus dépasser 20 à 25 km/h cet après-midi.
Autre titre de l'actualité, deux sœurs de 5 et 7 ans se sont noyées hier dans les Bouches-du-Rhône sur l'étang de Berre. Seule l'aînée a pu être secourue. La panique ce matin à l'aéroport de Roissy. Un homme armé d'un couteau a été tué par des policiers en plein aérogare. Et puis pas de happy end pour le beluga égaré dans la Seine. Il a finalement dû être euthanasié lors de son transport à Ouistreham dans la matinée. À partir de 13h, je vous le disais, vous pouvez réagir à tous ces sujets. Vous pouvez composer le 3210 dès maintenant. Peut-être avez-vous vu les photos du président de la République dans la presse People? La question du jour, êtes-vous choqué de voir Emmanuel Macron faire du jet ski? Vous avez répondu oui à 30%, non à 64%. Pour en revenir à la météo, Anthony, en dehors du contexte des incendies, qu'en est-il?
Soleil, temps sec sur tout le pays, un ciel dégagé évidemment, 31 à 36 degrés en moyenne, un petit peu moins près de la Manche. Toujours 16 départements en vigilance orange canicule sur la façade ouest et notamment dans le sud-ouest où on sera entre 36 et 39 degrés. Et puisque la liste des mauvaises nouvelles ne s'arrête pas là, des orages sur les Pyrénées, mais surtout sur les Alpes du Sud et le relief Corse où il pourrait être violent avec localement de la grêle.
Merci Anthony, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Le cauchemar continue près de Landiras en Gironde. Après un gigantesque incendie en juillet, des dizaines de départs de feu hier replongent les habitants dans un véritable désastre. Les flammes progressent très vite. Déjà 6000 hectares ravagés en moins de 24 heures. En direct avec nous, notre correspondant Philippe de Maria. Bonjour Philippe.
Bonjour Agnès.
Cette fois, les flammes partent vers le sud et de façon très violente.
Exactement, et les chiffres donnent le vertige, l'équivalent de 8500 terrains de foot ravagés par l'incendie. Georgette a vu les flammes de très près. Elle a passé la nuit dans la salle des fêtes d'Austins où elle a été dorlotée, mais les images du feu ne s'effacent pas.
J'en ai vu des feux, mais c'était pas ça. Mais là, il est violent, d'une violence inouïe.
Inouï, il y a eu 40 départs de feu cette nuit. Les pompiers doivent donc faire des choix, défendre la forêt ou bien les habitations, mais parfois ils doivent abandonner du terrain. Des maisons ont malheureusement brûlé cette nuit. Le contrôleur général Vermeulen est le patron des pompiers de la Gironde.
On a quand même été confronté cette nuit à un front qui était beaucoup plus virulent et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait été confronté au mois de juillet, ce qui explique malheureusement en partie la destruction de presque 16 maisons. Ce serait mentir vous dire qu'il n'y a pas une usure qui s'installe, et l'usure elle concerne les hommes, elle concerne également le matériel, puisqu'on a 40 véhicules actuellement au niveau du site de la Gironde qui sont indisponibles du fait de la sollicitation. Au niveau des personnels, on maintient une rotation, que ce soit les colonnes de renfort. Par exemple, là, hier, j'ai eu des personnels qui ont été engagés 24 heures. Je les ai mis au repos ce matin parce qu'il faut éviter l'accident.
Les hommes et le matériel souffrent, vous l'entendez, sur ce feu hors norme, à nouveau très actif ici en Gironde.
Philippe de Maria en direct pour RTL. Merci Philippe. Dans le Maine-et-Loire, l'incendie qui ravage une forêt entre Angers et Le Mans continue. Là aussi, sa progression. Ce sont plus de 1200 hectares qui ont été détruits. Nous vous parlions dès ce matin sur RTL de la mort d'une petite fille de 5 ans hier dans les Bouches-du-Rhône. Elle s'est noyée dans l'étang de Berre. Une autre fillette a pu être secourue in extremis. Les deux petites victimes se trouvaient sur une bouée qui s'est retournée avant d'être emporté par le courant, Arthur Pereira.
Le drame se passe peu avant 19h. À cette heure-là, la baignade n'est plus surveillée et poussée par des rafales de vent de plus de 50 km/h, l'embarcation s'éloigne du rivage avant de chavirer. À ce moment-là, les deux fillettes sont à plus de 500 mètres de la plage lorsque les secours arrivent sur place, comme l'explique le capitaine Stéphane Guyot.
Trois sapeurs-pompiers se sont mis à l'eau très rapidement alors qu'ils arrivaient avec leur ambulance pour secourir la première fille de 7 ans qui a pu être réanimée sur la plage une fois ramenée.
Sa sœur, âgée de 5 ans, elle continue de dériver et se retrouve à plus d'un kilomètre du bord. Pour la repêcher, un hélicoptère de la sécurité civile et des plongeurs sont envoyés en renfort. Mais c'est déjà trop tard. Malgré plusieurs massages cardiaques, la fillette n'a pas pu être réanimée.
Arthur Pereira pour RTL. L'aînée, elle, a été transportée à la Timone, donc elle est actuellement dans un état stable. Le drame où s'est déroulé sur la plage du Jail, sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Et nous sommes avec le maire de la commune, Roland Mourin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être l'invité de RTL Midi. Cette plage, c'est un endroit très prisé par les adeptes du kitesurf. Diriez-vous qu'elle est plus risquée, que c'est plus risqué qu'ailleurs ?
Non, c'est pas plus risqué qu'ailleurs. Mais c'est toujours dangereux, la mer, même en étang. C'est dangereux, surtout sur cet endroit, l'après-midi, quand elle était, il y a souvent un petit vent qui mène au large. Et les problèmes arrivent souvent de là.
Et est-ce que l'on ne peut pas empêcher ? Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour appeler les gens à davantage de vigilance ?
Ben, on a un secteur délimité, surveillé. Bon, il est vrai qu'après 6 heures, il n'y a plus les sauveteurs. Mais déjà, c'est un endroit délimité avec des flotteurs. Ça fait que ça empêche que le vent amène au large.
Et en 2018-2021, par rapport aux précédents drames qui se sont déroulés sur cette plage, est-ce que c'était les mêmes circonstances, ce courant qui emporte les nageurs au large ?
Oui, des gens qui sont sur des jouets gonflables et le vent qui les mène au large. Et les parents qui tardent à s'en rendre compte, puis c'est trop tard, ils n'arrivent pas à les rattraper. Le dernier décès, c'était justement une personne qui a essayé de rattraper ses enfants. Et puis il s'est épuisé. Les sauveteurs étaient là, bien sûr, c'était loin de la zone surveillée. Ils l'ont ramené au bord, mais c'était trop tard.
Est-ce qu'il y a suffisamment, selon vous, de signalisation pour mettre les baigneurs en garde, dire que effectivement c'est dangereux ?
Dans le cas d'hier, c'était. Ils ont fait le choix, je comprends, dans les endroits plus tranquilles, plus sauvages. Mais voilà, et on ne peut pas les empêcher d'y aller. Mais quand il y a des enfants. Des personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est ça qu'il faut voir. Ceux qui ont l'habitude, qui connaissent les dangers, ils arrivent à prévenir. Mais des gens, je crois que c'est des vacanciers qui n'étaient pas dans la région, ils ne connaissent pas ni le secteur, ni les dangers. Voilà, ce que je peux dire, c'est rester sur les zones où il y a du monde, rester sur les zones où c'est surveillé, rester là où c'est balisé. Voilà.
Et surtout peut-être ne pas se baigner effectivement quand la plage n'est plus surveillée à partir d'une certaine
aussi,
heure.
À part si on est d'excellents nageurs, mais voilà, il faut être vigilant sur tous ces points. Et si on a des lacunes en natation, ben il vaut mieux rester à des moments où c'est surveillé, où il y a des sauveteurs. La plage fait plusieurs kilomètres de long, bien sûr, il y a 400 mètres qui sont surveillés.
Vous le disiez, monsieur le maire, c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Que faire pour que de tels drames ne se reproduisent plus, ou en tout cas qu'on tente de les limiter au maximum ?
On peut pas interdire les accès sur les espaces naturels. On n'a pas le droit d'interdire, mais la question se pose. Il faut rester, mais ceux qui savent bien nager, qui n'ont pas de problème, il n'y a pas de souci. Comment empêcher les gens d'aller dans les endroits isolés pour profiter de la nature et de la baignade? C'est difficile. J'avoue que je ne vois pas comment on peut prévenir, si ce n'est alerter, sensibiliser pour éviter des situations compliquées comme... C'est le cas quelquefois, aller dans des endroits où il y a du monde, déjà, avant tout. La première des choses, moi qui suis amateur de nautisme et de baignade, il faut toujours aller des endroits où il y a du monde. S'il n'y a personne, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux. Voilà ce qu'il faut se dire.
Un appel à la vigilance, donc on l'entend, monsieur le maire. Merci infiniment, Roland Mourin, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Bonne journée à vous.
Merci, de même, bonne journée.
RTL Midi.
Je vous le disais en titre, un homme tué ce matin par un tir de policier. La scène s'est déroulée en plein aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 2F. D'après les premiers éléments de l'enquête, Clément Terra, l'individu aurait refusé de déposer un couteau.
Oui, l'homme âgé d'une quarantaine d'années perturbait des voyageurs avant que des agents de sécurité puis des policiers lui demandent de se calmer. Il aurait été menaçant, aurait avancé vers les forces de l'ordre, un couteau à la main. Alors après une sommation, un agent de la police aux frontières lui tire dans l'abdomen. L'homme tombe à terre et meurt de ses blessures quelques minutes plus tard. Le syndicat Alliance Police évoque la légitime défense. À cette heure-ci, le secteur est encore bouclé, mais les commerces commencent à rouvrir. Dans ce café, les employés sont encore sous le choc.
Alors il y a eu un cri d'avant. Quelques secondes après, il y a un coup de feu. Après, il y a eu un mouvement de panique. Les gens ont commencé à courir un peu partout. On s'est réfugiés à l'arrière et on a attendu que ça passe, quoi.
Ce sont domicile fixe, Clément, visiblement, était habitué des lieux.
Oui, c'est un sans domicile fixe qui, si on peut dire, vit au quotidien finalement à Roissy-Charles de Gaulle depuis des années. Il était connu des services, hein, mais pas pour des faits de violence. En apprenant la nouvelle de son décès, cet sans-abri était bouleversé, comme cet employé de l'aéroport qu'il a rencontré plusieurs fois. Lui était très surpris.
J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Il ne parlait pas avec beaucoup de monde. Il restait seul. Il ne dérangeait personne. Ce n'était pas un STF agressif.
Ce mec, je l'ai vu plusieurs fois. Après 5 ans, je suis là. 5 ans, il est là. Je ne l'ai jamais vu violent, mais...
Maintenant, une enquête est ouverte. Les policiers étaient équipés de caméras piétons. L'IGPN va donc récupérer les images ainsi que celles des caméras de surveillance de l'aéroport.
Clément Terra en direct de Roissy pour RTL. Merci Clément. Après le naufrage d'un bateau de migrants en mer Égée, les secouristes sont actuellement à la recherche de 50 personnes. On en parle tout de suite dans un instant sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 42 sur RTL. En Grèce, depuis ce matin, les gardes-côtes tentent donc de retrouver les victimes d'un naufrage. Près de 50 personnes, des migrants, sont portées disparues. Alexia Kefalas.
Eh bien, les gardes-côtes grecs sont toujours en état d'alerte. Ils continuent les recherches avec 4 bateaux naviguant dans la zone de naufrage, 2 patrouilleurs et 1 hélicoptère de l'armée de l'air. Pour le moment, seules 29 personnes ont été secourues sur les près de 80 réfugiés qui étaient à bord. La police portuaire parle d'une cinquantaine de portées disparues. Ce bateau, appareillé de la ville d'Antalya, sur la côte turque voisine, se dirigeait vers l'Italie, selon les premières informations, et a coulé au large de l'île de Rhodes, près de celle de Karpathos. Les recherches sont entravées par les vents violents de la mer Égée, d'autant qu'à en croire les autorités grecques, nombre de passagers ne portaient pas de gilets de sauvetage. Selon Athènes, le nombre d'arrivées de migrants et réfugiés en Grèce, en provenance surtout de Turquie, a fortement augmenté cette année. La Grèce accuse Ankara de fermer les yeux sur les pratiques des passeurs au péril de nombreuses vies humaines.
Alexia Kefalas, la correspondante de RTL en Grèce. Dans 2 semaines, cela fera 6 mois que la guerre a débuté en Ukraine. Depuis, la Russie aurait enregistré de très lourdes pertes, selon le Pentagone. 80 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée, Bénédicte Tassard.
Oui, 80 000, on est quand même à la moitié des effectifs russes déployés sur la frontière ukrainienne au début du conflit. C'est un chiffre énorme, mais crédible, selon plusieurs sources. Ajoutez à cela 3 à 4 000 véhicules blindés détruits et les militaires russes qui pourraient manquer désormais de missiles guidés de précision, selon les renseignements américains. Hier, en Crimée, plusieurs explosions sur la base militaire russe de Saki ont touché des avions. On ne sait pas encore si c'était une attaque ukrainienne grâce à des armes longue portée ou un simple accident.
Sur le terrain, Bénédicte, les Russes ont désormais le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia et comptent bien couper l'alimentation aux Ukrainiens.
Oui, c'est la plus grande centrale d'Europe. Elle est aux mains des Russes depuis le début de la guerre, mais oui, les Russes sont en train de la débrancher des lignes électriques ukrainiennes pour la raccorder au réseau de Crimée, le territoire qu'ils ont annexé en 2014. L'insécurité est à son maximum autour de la centrale. La nuit dernière encore, les Russes ont attaqué au lance-roquettes les villes et les villages voisins, tuant 13 civils.
Merci beaucoup Bénédicte Tassard, la chef du service étranger de RTL. Le procès de Benjamin Mendy débute aujourd'hui à Londres. Le footballeur français est accusé de 8 viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, il nie les faits qui lui sont reprochés. Le fond du dossier, les débats ne débuteront que lundi prochain. Accélérer la vaccination contre la variole du singe. L'expérimentation à Paris commencera demain, mais depuis ce matin, il est possible de recevoir une injection dans 3 pharmacies, à Lille, Fréjus, mais aussi Marseille, où vous vous trouvez pour RTL, Hugo Hamelin.
Oui, c'est ça, dans une pharmacie du centre-ville qui veut rester discrète pour le moment car tous les créneaux de vaccination ont été réservés en quelques jours, comme l'explique Julien, le pharmacien.
Alors là, actuellement, donc, on nous a livré 30 doses pour cette semaine. On en recevra à nouveau 30 pour la semaine prochaine, mais donc même les 30 de la semaine prochaine sont déjà toutes prises.
Est-ce que vous avez des gens qui viennent de loin ?
Bon, on a des touristes déjà, donc par exemple, il y a des Parisiens, des Lyonnais. On a également aussi des gens de la région, de Nîmes, d'Aix et de Marseille.
Voilà, c'est une vaccination expérimentale. Pour le moment, la difficulté, c'est le transport de ce vaccin depuis l'hôpital qui doit se faire à moins 80 degrés. Nous avons rencontré Ralph, qui est un Irlandais en vacances en France en ce moment et qui aura fait en tout plus de 600 km pour venir se faire vacciner ce matin.
Je suis Irlandais, je suis en vacances en France en ce moment et j'ai vu que le vaccin est disponible. Donc, en fait, en ce moment, je suis à Perpignan, mais j'ai décidé de prendre le train. En tant comme gay moi-même et en tant que médecin, je crois que c'est vraiment important de se faire vacciner parce qu'il faut essayer d'arrêter cette épidémie, si on peut l'appeler comme ça.
Voilà, la vaccination contre la variole du singe qui démarre. Donc, en France, 9 vaccinés sur 10 sont des hommes. Une maladie qui peut se transmettre par postillon, par voie cutanée ou par rapport sexuel.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. RTL, midi 47, malgré d'énormes moyens déployés pour tenter de le sauver, on le disait en titre, le beluga est mort ce matin lors de son transport vers Ouistreham. Égaré dans la Seine depuis une semaine, le cétacé était en souffrance, il a dû être euthanasié, Romain Biteau.
Oui, dans le camion réfrigéré qui le transportait jusqu'à Ouistreham, les dispositifs pour tenter de le maintenir en vie n'auront donc pas suffi. Le cétacé souffrait trop, il n'a Il n'arrivait plus à respirer, d'après Florence Olivier Courtois, la vétérinaire chef de l'Essonne.
Deux vétérinaires se sont maintenus en permanence auprès de l'animal pendant le voyage. En fait, cet animal avait une condition musculaire insuffisante pour respirer convenablement. Donc, c'est vrai que son état n'était pas compatible avec un relâchement.
Les vétérinaires l'avaient placé dans une caisse entourée de bottes de paille et de serviettes humidifiées. Un voyage compliqué après sa sortie de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne vers 4h du matin. Le beluga avait été extrait de la Seine grâce à un gros filet et la mobilisation de 24 plongeurs de la gendarmerie. Mais déjà affaibli, le cétacé de 4 mètres pour 800 kilos n'avait plus d'activité digestive d'après l'ONG de défense des océans Sea Shepherd. Il ne se nourrissait plus. Maintenant, place à l'autopsie. Le CNRS et l'Université de La Rochelle vont mener les examens au laboratoire départemental à Caen.
Merci beaucoup pour ces précisions, Romain Biteau. Seuls Paris et Marseille représenteront la France en Ligue des Champions cette saison. Monaco a loupé le coche en s'inclinant hier soir face au PSV Eindhoven. Défaite 3-2 après prolongation. Ça devient une mauvaise habitude pour les monégasques, Philippe Sanfourche.
Bah oui, même scénario que l'an passé face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Même désillusion quand toute fin de championnat, vous vous en souvenez forcément, avec ce but encaissé à Lens à la dernière seconde qui avait privé le club d'une qualification directe pour la Ligue des Champions. Ça commence à faire beaucoup pour être simplement le simple fait du hasard. Monaco, on le sait, a du talent. Monaco domine très souvent, comme hier encore. Mais Monaco se fait cueillir par manque d'expérience, de maturité, la faute en partie, pas seulement, mais en partie à une politique de trading. Vous savez, cette politique de vente précoce des meilleurs talents qui sont rarement compensés par des joueurs aguerris.
Alors le problème, Philippe, c'est que l'ensemble du foot français est impacté par cette élimination avec un vrai risque de déclassement.
Ah oui, c'est le fameux indice UEFA. Alors la France occupe actuellement le 5e rang. Elle est habituée, hein, ça fait 7 ans qu'elle est au 5e rang, la France. Mais derrière, ça commence à pousser très sérieusement. Les Pays-Bas, justement, hein, avec encore cette victoire du PSV Eindhoven. Le Portugal aussi se rapproche très dangereusement. Et c'est pas du tout le moment, puisque l'an prochain, cette 5e place offrira non plus 2, mais 3 tickets directs pour la Ligue des Champions via le championnat. Les clubs français ont donc tout intérêt à briller particulièrement cette saison en Coupe d'Europe et on peut dire que Monaco n'a pas franchement montré la voie à suivre.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche du service des sports de RTL et nous allons parler d'un Tour de France assez particulier, celui du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois Jean Asselborn, 73 ans. Il s'est lancé depuis quelques jours dans un Tour de France, à vélo donc, en solitaire. Une quinzaine d'étapes qui doivent le mener de Luxembourg à Sainte-Maxime dans le Var, Dimitri Ramelot.
Oui, 10 000 km d'entraînement depuis septembre 2021 au Grand-Duché, parfois même sous la neige. Aucune peur et une grande fierté pour le ministre Jean Asselborn d'effectuer ce périple.
Il y a 5 Luxembourgeois qui ont gagné le Tour de France.
D'abord, il faut arriver au Ventoux, ça c'est une chose. Et deuxièmement, il faut voir aussi la Méditerranée. Bon, je suis un humble petit cyclotouriste. Hein.
Et dans la sacoche sur le guidon et son sac à dos de 6 kilos, entre autres, des t-shirts, des shorts et un maillot de bain.
J'ai un uniforme, hein. Par exemple, maintenant avec tout ce qui se passe en Russie, il se peut qu'on décide d'avoir une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.
Et ainsi pouvoir se présenter à ses collègues rapidement. Donc priorité absolue, recharger son portable le soir à l'hôtel ou dans les chambres d'hôtes et gérer au mieux la chaleur.
Il faut vraiment essayer d'avoir toujours de l'eau. Par exemple, aller dans les cimetières, là on trouve toujours de l'eau, c'est toute une technique hein, qu'il faut apprendre avec les années.
Et le ministre, que personne ne reconnaît en France, et ça lui va très bien, parcourt entre 60 et 130 km par jour, des étapes dont il fait récit le soir sur les réseaux sociaux.
Le reportage de Dimitri Ramelot, pardon Dimitri, sur RTL. Hier, il s'est glissé dans la peau d'un serveur, je pensais à Pierre Herbulot, puisqu'aujourd'hui, dans RTL en immersion, notre journaliste cuisine dans un restaurant 3 étoiles. Ah, quelle est dure la vie de journaliste. À tout de suite.
RTL Midi. RTL en immersion.
C'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur RTL. Les journalistes de la rédaction qui changent de métier le temps d'une journée. Trufficulteur, moniteur de parachutisme, secouriste ou encore serveur. D'ailleurs, c'était votre cas, Pierre Herbulot, hier. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Après la salle, la cuisine et pas n'importe où, puisque vous avez joué le rôle de commis à la Villa Madi, restaurant récompensé par 3 étoiles au guide Michelin cette année.
Oui, direction les grandes cuisines tout en inox. C'est là que je rencontre Samy, le second qui va m'encadrer.
Je vais me laver les mains, non? Peut-être ouais. Le premier truc.
Ouais, je vais laver les mains et même mettre un tablier.
Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà juste, ça veut dire quoi comme une cuisine? Il fait quoi dans une cuisine?
Il va éplucher, il va préparer.
Ouais.
Toutes les préparations, hormis cuisson, c'est des herbes, c'est des arrêtés, toute la partie de la préparation en amont qui prend du temps.
Bon, corvée de patates quoi. Petite déception, j'avoue. Après, il faut bien se rendre compte que dans ce type de restaurant, une cuisson ratée le mauvais jour, c'est une étoile qui saute.
Donc là, il y a Célestin, il est en train de tailler les sardines.
Ok.
Et ensuite, on va les condimenter, les sardines. Donc ça veut dire que dessus les sardines, on va mettre un peu de citron caviar. Citron caviar, c'est comme ça.
Et en fait, à l'intérieur, on le coupe et ça ressemble à du caviar. Quoi. Ouais. Il y a des petits grains de citron. Quoi.
Ouais.
Alors, tu peux montrer, Samy, comment on fait?
Ouais. Donc, on prend le citron, on le coupe en deux.
Dans la longueur.
Et ensuite, avec la petite cuillère, on va récupérer
tous les petits grains.
Voilà.
Et je les mets dans la boîte ensuite.
Hein. Voilà. Donc j'ai juste à gratter.
Ça marche.
Ça, on
je fais tout,
faire,
hein.
Non, on va en faire... Bon, on va tout faire.
Ok, ouais, ça marche.
En fait, ce que je fais, ça s'appelle de la mise en place. Dans toutes les cuisines, sous les plans de travail et dans les étagères, il y a des dizaines et des dizaines de petites préparations comme ça. Des huiles parfumées, des morceaux de viande déjà parés, comme on dit, et donc des graines de citron caviar. J'en suis enfin venu à bout.
Parfait.
Tu repasses derrière
ça,
moi.
Ça, maintenant, ouais.
Ouais.
On va le filmer.
Ouais,
continue.
Oui, chef.
J'ai raté l'occasion de dire oui, chef, là, non?
Ah oui.
Ouais, c'était là. Hein. Chaque
mais
fois qu'il parle, c'est ça?
Ouais, mais ça va revenir. Hein.
Le chef, c'est Dimitri Droineau. Il ne s'occupe pas de moi, c'est normal. Il supervise les tâches les plus importantes, goûte toutes les préparations, réfléchit au prochain plat. Contrôler ce que font les novices, c'est le job de mon mentor du jour. Petit cours sur la hiérarchie en cuisine.
Chef de cuisine, chef adjoint, seconde cuisine ou sous-chef. Et ensuite, chef de partie, demi-chef, commis.
Et là, si je commence commis aujourd'hui, je peux progresser rapidement ou quoi dans le métier?
Pas de règle. Donc on peut commencer commis, l'année d'après être demi-chef et 4 ans après être chef de partie.
Et il faut forcément avoir fait une école hôtelière ou quoi?
Non, non, on peut avoir envie de faire de la cuisine et travailler dans un restaurant et commencer plus bas.
J'ai encore raté, prochaine fois.
Donc voilà, là ensuite on a les sardines, on les a portionnées, dans l'assiette on en met 3. Dessus on mettra le caviar et tout ça à la fin. Et là pour commencer, hop, on vient mettre un petit citron caviar.
C'est quelques grains quoi.
Et ensuite on vient mettre...
C'est quoi ça, c'est du thym citron?
Ouais, c'est du thym citron, on a récupéré voilà, les sommités. À la pince on est plus précis qu'avec les doigts.
Samy, tu veux me dire que c'est trop là ou pas?
Là on peut goûter un pour se rendre compte.
Ouais, ça pète en bouche quand même. Ok. Coup, donc si on en met trop, en fait, on sentira plus la sardine, quoi.
On sentira plus le citron caviar, c'est pas le but.
C'est noté.
Ouais. Oui, chef.
Je suis trop concentré sur mon thym citron, là.
Allez, Pierre, je suis sûr que vous allez réussir hein, à dire oui, chef, dans le bon tempo. En tout cas, c'est assez fou de voir le nombre de préparations pour une simple entrée.
Oui, c'est carrément hallucinant. Il y a 6 ou 7 préparations pour une simple entrée. D'autant qu'il y a des dizaines de plats à la carte. En plus, elles changent régulièrement. Et Samy, lui, connaît tout par cœur.
Tout le monde est censé savoir ce qu'il y a dans chaque... Déjà dans les menus.
Ouais.
C'est obligatoire parce que Pour savoir sur quoi on va travailler, quelle mise en place on va faire. Et ce que le chef attend surtout.
Chef, la tarte. Chef, il y a votre tarte qui a sonné. Faut avoir l'oreille partout.
Oui, chef.
Chef, j'ai réussi à le dire.
Ça va être difficile, mais je vais te demander de me débriefer. Ça s'est bien passé, là? J'ai pas fait n'importe quoi?
Non, c'était impeccable. Il faut être minutieux.
C'est ouais, c'est difficile. C'est hyper minutieux. Difficile.
Ah ben, faut que être régulier. Faut rester concentré sur une petite étape, mais qu'on répète tout le temps. 50 fois, 60 fois, 100 fois, tous les jours. Juste c'est ça qui est important, c'est être régulier.
C'est là qu'on se rend compte que travailler en cuisine, c'est pas faire Top Chef. D'abord, on apprend les découpes, les cuissons, la rigueur du travail. Ensuite, on gravit les échelons et enfin, on crée des plats.
Et question incontournable, Pierre, ça vous a plu? On va vous revoir quand même à la radio ou pas?
Oui, non, je vais rester à la radio plutôt à parler des chefs, à les mettre en avant, parce que je vous avoue que ce que j'aime le plus dans la cuisine, c'est la manger. Je suis hyper gourmand, ce serait vraiment trop frustrant pour moi de ne faire que servir pour les autres.
Merci beaucoup Pierre Herbulot, merci aux équipes de la Villa Madi à Cassis pour l'accueil. 3 étoiles au guide Michelin cette année. RTL Immersion, vous le savez, hein, tous les épisodes sont à retrouver sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. Avant le rappel des titres et avant de retrouver les auditeurs au 3210, je voulais que nous fassions un point, Anthony Kaczmarek, sur la météo. On a parlé des incendies et du contexte très très favorable à ces incendies, temps très sec.
Exactement, temps très sec, du soleil, forte chaleur sur tout le pays. On sera entre 30 et 36 degrés et 36 à 39 dans le sud-ouest aujourd'hui. La minimale pour Dunkerque, 24 degrés, jusqu'à 39 degrés à Cahors. Toujours ce vent donc qui souffle partout, hein, à 40 km/h en rafale, et ces orages sur les Pyrénées dans l'après-midi et surtout sur le sud des Alpes et sur la montagne Corse, où il pourrait être localement violent et accompagné de grêle. Je vous rappelle que 16 départements de la façade ouest sont en vigilance orange canicule, de la Loire-Atlantique jusqu'au Pays Basque et jusqu'à la plaine toulousaine.
Alors j'ose à peine vous demander si on peut espérer une amélioration, et si oui, quand?
Alors je vais vous dire oui. Bon, évidemment, avant il faudra encore supporter de très fortes chaleurs. Demain il fera 40 degrés par exemple à Bordeaux et on sera dans les mêmes valeurs qu'aujourd'hui ailleurs. Jeudi après-midi donc très très chaud, vendredi, samedi aussi ce sera le pic de la canicule, et puis dimanche sans doute, hein, donc j'emploie le conditionnel, nous devrions avoir une dégradation orageuse par l'ouest qui pourrait gagner l'est lundi, mais ce seront des orages isolés. Ils vont faire baisser les températures, mais on restera à des niveaux sans doute autour de 30 degrés. Et puis d'autres scénarios annoncent le maintien de la chaleur. Donc évidemment, on va attendre patience et prudence.
Merci beaucoup Anthony Kaczmarek. On se retrouve dans quelques secondes. Pour les auditeurs, on la parole, bien évidemment.
RTL Midi.